Radio Alpa en escalpade, présenté par Charlie Pless et Lisa Gomez.
Bonjour et bienvenue sur Radio Alpa dans cette émission spéciale Hors les Murs, cette escalpade consacrée à la journée de la pensée joyeuse, cette journée qui vient clore les inspirantes, temps fort de la programmation de la scène nationale, les Quinconces et les Spales. Et nous sommes donc en direct du Carré Rouge des Quinconces avec plusieurs invités de cette journée de la pensée joyeuse, invités au féminin puisque les inspirantes, c'est en effet un temps fort qui met en avant la création artistique des femmes et qui s'engage sur les différents combats féministes. Mais alors même si la scène nationale propose avant tout du théâtre, il ne sera pas seulement question de théâtre aujourd'hui, comme vous allez le découvrir dans quelques instants. Je voudrais tout d'abord vous présenter ma partenaire pour cette émission, Lisa Gomez. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Tu seras donc avec moi pour animer cette émission, et je précise que nous sommes avec vous jusqu'à 15h. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les inspirantes et la journée de la pensée joyeuse. Qu'est-ce qui vous attend cet après-midi? Avec Virginie Bocard, directrice de la scène nationale des Quinconces et les Spales. Elle sera accompagnée de Mina Cavani. La comédienne nous parlera de son parcours depuis l'Iran et du premier spectacle qu'elle a conçu, Amdi Ranged, réflexion et émotion sur ce qu'elle vit en tant qu'artiste exilée. Car l'exil, c'est en effet la thématique de la journée de la pensée joyeuse cette année. Et puis nous quitterons le théâtre pour s'intéresser à un métier encore méconnu en France, la doula, avec Charlène Marpy et Pénélope Dema, un métier axé sur l'écoute, on en saura plus tout à l'heure. Nous recevrons ensuite une autrice ivoirienne, Ornella Vianney Kofi. À travers ses récits, elle porte un discours de réappropriation du corps féminin et de sa sexualité. Elle présente aujourd'hui au Quinconce une exposition photo et une performance poétique, La Maudite de Nansunku. Et puis si vous êtes présent au Quinconce pour la journée de la pensée joyeuse, n'hésitez pas à passer un peu de temps sur l'atelier Raboutage, une activité manuelle et conviviale proposée par Léa Josso. Et pour finir, nous serons avec l'association Tadamoun qui organise une collecte de dons alimentaires pour les exilés de Calais. N'hésitez pas à aller donner à l'association présente également au Quinconce aujourd'hui. Maintenant que vous avez le programme, commençons. Au fond, c'est quoi la pensée joyeuse?
107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
Et donc, pour commencer cette émission, nous sommes avec Virginie Bocard, directrice des Quinconces et les Spales. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on va revenir sur le programme de cette journée de la pensée joyeuse, journée qui clôt le temps fort des inspirantes. Et il reste un dernier spectacle dans la programmation de ce temps fort, Amdi Ranged, de la comédienne Mina Cavani, avec nous également. Bonjour. Bonjour. Et il reste un dernier spectacle de la programmation. Donc c'est Mina Cavani, on en a parlé. Un spectacle idéal pour clore ce temps fort, tant son interrogation est au cœur des inspirantes et du thème de cette année, l'exil. On y reviendra. Mais d'abord, peut-être, Virginie Bocard, expliquez-nous que sont les inspirantes, au juste.
Les inspirantes, donc c'est un temps fort qui rythme la programmation des Quinconces et de l'Espal et qui tisse une ligne éditoriale depuis 5 ans, puisque c'est la 5e édition des inspirantes. Ça se passe en janvier. Et donc, c'est une programmation pluridisciplinaire en théâtre, en danse et en musique cette année, avec cette journée de la pensée joyeuse qui propose des œuvres au plateau qui parlent de parcours de femmes qui peuvent nous donner du courage à un moment donné, qui peuvent nous donner de la force, qui nous inspirent. Et donc, c'est des propositions qui sont portées essentiellement par des artistes femmes et donc qui ouvrent des chemins, qui sont des chemins d'émancipation, d'affranchissement, de libération. Et on est donc aujourd'hui effectivement dans cette journée de clôture avec Mina Cavani, avec cette journée de la pensée joyeuse qui a été vraiment élaborée, construite avec des femmes militantes qui sont au sein de collectifs, d'associations ou bien d'une démarche individuelle. Et on a commencé avec le portrait de Rita de Lorraine Marx qui parle aussi de l'exil d'une femme qui vient en Europe pour quitter sa situation. Et ce spectacle dénonce un racisme systémique et aussi nos pressions en tant que femmes noires qui arrivent en Europe.
Oui, parce que les inspirantes, ça ne met pas en avant seulement le combat féministe, ça parle de la lutte contre toutes les discriminations, en fait.
C'est un combat intersectionnel. Et donc, ce matin, j'écoutais par exemple la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury qui nous parlait aussi du courage. Et donc, il nous en faut beaucoup aussi en tant que femme pour pouvoir parfois continuer à poser des combats, à pouvoir les assumer aussi, quitter aussi des assignations. Et donc c'est cette idée avec les inspirantes, et c'est de ne pas le faire seul ici sur les plateaux, mais bien entouré de celles qui sont autour de la table aujourd'hui et qui proposent différents rendez-vous, ateliers pour cet après-midi.
Et alors, au-delà des discours éminemment politiques des pièces de la programmation des inspirantes, est-ce que ces spectacles, ils sont aussi de vraies propositions théâtrales?
Ah oui, absolument. Mais diriger un établissement culturel, un établissement public comme les Quinconces et l'Espal, c'est évidemment avoir une direction artistique, avoir aussi un point de vue esthétique sur les œuvres qu'on choisit, pourquoi certaines plutôt que d'autres. Donc c'est des choix éditoriaux, comme je le disais, mais c'est aussi des choix artistiques, esthétiques. Et avec le spectacle de Mina ce soir, puisque ça joue ce soir et encore demain, donc effectivement, il y a un vrai parti pris, une vraie langue, une forte interprétation au-delà du sujet, des choix scénographiques aussi qui sont extrêmement pertinents par rapport à ce qui nous est raconté, et puis une formidable interprétation. Donc évidemment, la direction artistique que je signe, elle est bien évidemment aussi au cœur du projet.
Et donc tous les ans, ce temps fort des inspirantes se clôt par une journée de la pensée joyeuse, donc c'est aujourd'hui, le 31 janvier, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est quoi l'objectif de cette journée en fait? Qu'est-ce que c'est la pensée joyeuse?
La pensée joyeuse, c'est réfléchir ensemble. Donc là, c'est la 5e édition, avec comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des femmes qui ont envie d'être contributrices sur cette journée et pouvoir créer des liens, créer des rencontres. Moi, c'est la première fois que je suis à côté d'une doula, hormis une réunion de travail à un moment donné. Mais je tiens à dire que cette journée de la pensée joyeuse, elle est élaborée par Marie-Emeline Lézot et Julie Lecomte, qui est adjointe de direction ici à la Seine. Et donc, c'est faire des rencontres assez inattendues. Donc, ce qui m'intéresse en ayant penser, élaborer cette journée de la pensée joyeuse, c'est que les choses puissent se partager, s'échanger. Et quand je vois des femmes de toutes les générations qui sont là aujourd'hui, ici, au Carré Rouge, pour croiser des pratiques artistiques, esthétiques, militantes, je trouve que c'est aussi l'endroit d'un théâtre et c'est un lieu d'utilité publique.
Et donc cette année, le thème de la journée, c'est l'exil. Comment elle apparaît concrètement, cette thématique, à travers cette journée de la pensée joyeuse?
Eh bien, elle apparaît parce qu'il y a différentes réunions qui se mettent en place, donc, puisque c'est vraiment un travail au long cours. Il y a eu à peu près 4 réunions depuis la rentrée pour présenter ce qui constitue directement la responsabilité du théâtre, à savoir faire une programmation, choisir des spectacles, donner une ligne. Et donc, à travers la programmation, les participantes de ce comité de pilotage de la pensée joyeuse ont discuté, échangé ce qu'elles avaient envie de partager, et puis à travers les œuvres présentées. Et donc là, effectivement, on est en clôture avec I Am Derange, qui parle de l'exil d'une femme, de Mina Cavani. On a commencé avec le portrait de Rita, où il était justement question d'exil. Cette thématique, elle est sortie. En fait, les choses se décident ensemble, donc c'est un long processus, presque un accouchement, d'arriver à un thème qui fédère et qui rassemble.
Et donc je me tourne donc vers vous, Mina Cavani, puisque votre pièce Am Derange porte justement sur l'exil, un exil que vous avez vécu, que vous vivez toujours peut-être, vous nous direz, car si ce seul en scène c'est votre première pièce en tant qu'autrice, vous avez déjà une longue carrière de comédienne, d'actrice qui a commencé à Téhéran, que vous avez dû fuir après votre apparition nue dans une scène d'amour dans le film Red Rose, une scène qui vous a valu en Iran le titre d'actrice pornographique. Vous êtes donc réfugiée en France, à Paris, en espérant pouvoir pleinement vivre votre vie d'artiste et profiter d'une totale liberté d'expression. Alors, est-ce bien ce que vous y avez trouvé?
La liberté, vous voulez dire?
La liberté d'expression totale, cet idéal de la vie d'artiste en France.
En fait, je pense que quand on a grandi dans un pays comme ça, qu'on a été formé, comme je l'explique dans mon spectacle, vraiment au quotidien, on a affaire avec un régime comme ça. Je pense que c'est des cicatrices qui restent en nous et qui est irréparable et qui font partie de nous. Et donc, en fait, De toute façon, j'ai beau à vivre aujourd'hui dans un pays libre. Bon, déjà, en premier temps, même si j'ai ma nationalité française aujourd'hui et que je suis sortie de ce titre réfugié politique, mais je ne peux toujours pas retourner dans mon pays. Et surtout, l'Iran, c'est mon cœur. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est je ne peux pas être indifférente à ce qui se passe là-bas. Et même au-delà de ça, de toute façon, je pense qu'il y aura toujours dans mon travail artistique un reflet de ça, d'une manière ou d'autre. Et puis, j'ai pas envie toujours, en plus, parler que de l'Iran ou de le limiter que à l'Iran. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de pays dans le monde qui sont dans cette situation-là. Et c'est important d'en parler.
Pourtant, si j'ai bien compris, c'est cette attache toujours présente à l'Iran, malgré votre exclusion, dont vous parlez dans Ahmadinejad.
Et pardon, j'ai pas compris.
Dans Ahmadinejad, c'est toujours un peu de cet attachement à l'Iran dont vous parlez, malgré cette exclusion, ce sentiment d'être jamais complètement à votre place.
Oui, mais après, il faut que je vous dise que je n'ai pas créé ce spectacle parce que je voulais parler d'Iran ou je voulais parler directement de l'exil ou que le chemin était à l'inverse. Ça veut dire que j'avais envie de créer quelque chose. Ça veut dire que le choix est parti plus par un point où j'avais besoin de parler dans une forme artistique. J'avais besoin de m'exprimer à travers le théâtre, à travers les mots, à travers la musique. Comment s'est fin la frontière entre le cauchemar et le rêve? À quel point on peut facilement basculer d'un à l'autre? Et donc, évidemment, pour moi, ça commence par l'Iran et après, ça termine en France.
Et pourquoi le choix du seul en scène particulièrement? C'est une histoire que vous ne pouviez pas partager avec quelqu'un d'autre sur scène?
Non, je pense que j'ai toujours besoin de cette solitude-là. Et cette solitude-là, d'une manière ou d'autre, j'ai besoin de l'exprimer. Si dans Ahmadinejad, c'est cette solitude de l'exil ou de se retrouver dans quelque chose de pas pouvoir trouver sa place, dans mon deuxième création, ça se montre autrement, cette solitude. Je pense que je cherche toujours à donner la forme à la solitude, mais dans les différentes formes.
Attardons-nous peut-être un peu sur ce titre, Ahmadinejad, qu'on peut traduire par « je suis cinglé » ou « je dérange », »,« je gêne ». C'est ce que vous vous dites à vous-même ou c'est ce que
c'est
les autres vous disent?
C'est pas « je suis cinglé », c'est « dérangé » plutôt.
Ouais, on peut le traduire de différentes façons, effectivement, c'est pour ça que je proposais plusieurs traductions. Vous êtes plutôt sur « dérangé » du coup.
Oui, c'est pas du tout « je suis cinglé », c'est plutôt « dérangé » parce que c'était une manière... Alors déjà, il faudrait que je vous dise que ça vient de titre de David Bowie, Ahmadinejad, dans son film de David Lynch, qui est aussi quelqu'un qui m'a énormément inspiré et qui continue à m'inspirer, et que j'aime énormément ce rapport qu'il a, David Lynch, un peu avec, comme je vous ai dit, cet univers de cauchemar et de rêve et de fantasme et d'illusion. Ça, c'est particulièrement mon univers. Et en fait, moi, j'avais envie que le titre, ça soit ni français ni persan, une langue qui ne m'appartient pas, qui n'appartient pas à mon pays adoptif, qui est la France non plus, qui appartient à une troisième langue, qui est notre langue de communication, c'est une langue de immigration, c'est une langue de connexion avec tous les pays de toute langue et toute origine. Et en fait, en écoutant un jour cette chanson, en fait, je me suis dit ça raconte parfaitement ce spectacle parce que ce spectacle raconte ça, que je n'arrive pas à trouver ma place ni en Iran ni en France, enfin de l'époque là, je ne parle pas d'aujourd'hui, et c'était le titre parfait pour exprimer mes émotions.
Le temps passe vite, je suis obligé de passer à la dernière question de cette interview, mais je suis obligé de vous la poser, Mina Kavani. Quel regard est-ce que vous portez sur les récents soulèvements de la population iranienne et sur la répression sanglante par les mollahs? Avant cela, le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Est-ce que vous avez l'espoir que dans un futur proche, l'Iran puisse changer? La démocratie en Iran, est-ce que c'est un rêve qui devient possible selon vous?
C'est absolument possible. Je pense que la liberté est proche. Alors, je ne peux pas vous dire dans combien de temps, parce que je ne suis pas une femme de politique ni géopolitique, mais je suis juste admirative de courage de mes compatriotes, hommes, femmes, jeunes, âgés. Il faut savoir qu'il y a tous les âges de toutes les... est-ce que c'est ça, hommes, femmes, ils sont en train de se battre pour la liberté, ils sont en train de perdre leur vie, leurs proches, leurs amours. Je suis juste tous les jours, je tremble pour eux. J'espère de tout mon cœur que victoire, ça s'approche.
Et je pense qu'on partage tous, votre admiration pour leur courage.
Merci.
Je vous remercie, Mina Cavani, votre seule en selle Hamdi Range de C'est à nouveau ce soir au Quinconce à 20h. Je rappelle que nous sommes le samedi 31 janvier pour ceux qui écoutent la rediffusion ou le podcast, avec une dernière représentation dimanche 1er février à 17h, séance accessible aux sourds et malentendants. Et pour ceux qui sont présents au Quinconce sur la journée de la pensée joyeuse, le texte de Mina Cavani, Hamdi Range, est à vendre à l'accueil. Et merci également à Virginie Bocard, directrice de la scène nationale Les Quinconces l'Espal. Merci à vous deux.
Merci.
Connaissez-vous le métier de doula ? On vous en apprend plus tout de suite et je laisse le micro pour la suite à Lisa Gomez.
Bonjour Charlène Marpy et Pénélope Déma. Vous exercez toutes deux un métier assez particulier puisque vous êtes doula. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consiste ce métier ?
Bonjour, merci de me poser cette question. Je me permets, je m'appelle Charlène Mashpi.
Mashpi, pardon.
Pas de souci. Une doula, c'est une personne qui va être présente avant, pendant et après une naissance auprès de la femme, auprès du couple et auprès des familles. Mais aussi sur d'autres thématiques.
Par exemple des thématiques liées au cycle menstruel ou à l'accueil de la parole des femmes, donc par exemple des cercles de partage entre femmes pour avoir des moments où on se centre sur nos vécus de femmes dans cette société.
Et qu'est-ce qui différencie ce métier par exemple d'une psychologue ou d'une sage-femme ?
Tout simplement parce que nous n'avons pas fait plusieurs années d'études de médecine et nous ne sommes pas des thérapeutes, nous sommes des professionnels de l'écoute et des professionnels autour de la périnatalité et de tout ce qui va toucher au cycle menstruel.
Donc si je comprends bien, le métier de doula, c'est avant tout un accompagnement. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un accompagnement est nécessaire justement pour une femme ?
Ça, c'est vraiment à la femme et à la famille de définir. Ça peut être aussi le coparent qui a envie d'un accompagnement et pas forcément la personne qui porte l'enfant. Il peut venir avant la naissance, par exemple, en parcours de PMA ou pour savoir ce que c'est. Ce que signifie vraiment le parcours d'être parent. De plus en plus de personnes se posent la question. Et après, il peut survenir à n'importe quel moment aussi de la vie, que ça soit autour du deuil ou autour d'un projet de coparentalité, par exemple.
Est-ce que c'est une profession naissante en France ? Est-ce qu'elle est connue ou c'est encore un processus à se mettre en place ?
C'est encore... un métier qui n'est pas connu, mais avec Pénélope, on travaille beaucoup pour qu'il soit connu et que le mot circule, rien que le mot, ainsi que sa définition correcte. Et ça fait un peu plus de 20 ans que ce métier existe en France, mais il y a de plus en plus de doulas. Et il y a encore 5 ans, ce métier était connu que par une seule personne sur deux en France.
Et donc, pourquoi c'est important qu'il soit plus mis en avant en France, ce métier ?
À mon sens, aujourd'hui, la première cause de mortalité maternelle, c'est le suicide. Et à mon sens, en tant que Charlène, c'est inacceptable. Et à mon sens, à nouveau, le soutien est indispensable. Et donc, la doula répond à ça, en fait, voilà, tout simplement, à créer des ponts, à pouvoir être écoutée à des moments de grande vulnérabilité dans sa maternité ou dans sa parentalité, mais aussi de pouvoir, être accompagnée de manière pluridisciplinaire, on va dire, et transversale avec des professionnels de santé, avec des thérapeutes, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le réseau périnatal Sarthe et Perche pour permettre à des professionnels d'être identifiés et de pouvoir envoyer des parents vers des professionnels identifiés.
Donc doula, c'est votre profession principale ou vous avez d'autres services que vous proposez en accompagnement ?
Moi, je suis également éducatrice menstruelle, donc je fais des ateliers pour tous sur le cycle menstruel, tous les âges, voilà, dans des clubs, ça va des clubs de sport, au centre aéré, aux particuliers aussi.
Et en ce qui me concerne, je fais de la danse prénatale et de la danse portée avec bébé, ainsi que des récits de naissance audio, parce que moi, mon truc, c'est l'audio.
Vous êtes ici dans le cadre de la journée de la pensée joyeuse, où vous allez tous les deux animer deux ateliers, l'un s'appelant « Espace naissance, où suis-je née ?», l'autre « Être mère et militante ». De quoi va-t-il être question pendant ces ateliers et de quoi allez-vous parler ?
Sur l'espace « Être mère et militante », c'est un espace d'une heure et demie où 8 femmes qui auront réservé leur place viendront déposer leurs paroles sur... qu'est-ce qu'être une mère et qu'est-ce qu'être militante à la fois. Voilà, c'est de 15h30 à 17h, ici, au Quinconce. Et concernant l'espace...
Alors, c'est un espace lié à la naissance qui interroge ce qu'on connaît en tant qu'adulte de sa naissance, donc notre lieu de naissance, et comment ça s'est passé, et qu'est-ce qu'on en sait, en fait. Voilà.
Et donc, je vous pose la question, être mère et militante, pour vous, ça veut dire quoi ?
Moi, j'ai été activiste féministe et je vois, par exemple, que la maternité n'est pas du tout dans les combats féministes et qu'elle même dérange. Ça crée de la scission de parler de la maternité. Et du coup, je trouve ça intéressant de l'ouvrir et aussi de comment être activiste quand on a des enfants. Il n'y a pas beaucoup en France encore de relais derrière de qui garde mes enfants pendant que je suis en garde à vue parce que j'ai fait une action féministe, par exemple.
Enfin, dernière question. Pourquoi vous avez tenu à être présente lors de la journée de la pensée joyeuse ?
Eh bien, parce qu'il y a quelques temps, je suis venue à la journée de la pensée joyeuse. C'était l'une de mes premières sorties en postpartum après avoir donné naissance. Et ça m'a tout simplement vraiment ravie. Cet instant que j'ai pu vivre ici. Et à nouveau, c'est un moyen de faire connaître le mot et la signification de ce que veut dire doula. Donc pour moi, un joli souvenir, un lieu comme celui-ci, avec des personnes que je côtoie et que j'apprécie, pouvoir travailler avec elles en collectif et en plus faire briller ce mot avec Pénélope, ma collègue, tout était réuni.
Merci beaucoup, Charlène Machepi et Pénélope Dema, d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
Et merci, Lisa. Notre escapade sur la journée de la pensée joyeuse revient dans quelques instants, juste après une petite pause musicale. Send shivers down my spine when I look you in the eye. Still fire and ice, still flower and glass, dancing together, hurting each other. I would like. I would love to see you cry, boy, cry. Give you my shoulder and my word on my use pillow and my wine. Use my soul to wipe the floor. Cry, boy, cry. Give you my shoulder and my word on my use pillow and my wine. Use my soul to wipe the floor. I cry and I keep on crying, boy, for you and another thing I can't. Maybe you're the main reason hidden behind. But this I'll never admit, I would rather die. This I'll never admit, I would rather die. I would rather die. I wish I were only human, so I couldn't read the sun. I've been watching you so long, and you keep battening my soul on. Please have mercy on me. Leave me alone in a dorm. Switch the light on so I can see you, and see you. Cry, boy, cry.
I give you my shoulder and my word. Don't mind you spilling my wine. Use my soul to wreck the floor. Cry boy, cry, give you my shoulder and my word. Don't mind you spilling my wine. Oh, use my soul to wreck the floor. Oh, ooh. Oh, cry. Oh, cry. Oh, cry. You should cry, cause you're made of the same feeling inside. Cause your heart is not meant for the pain. Cause I'm gone, cause I'm stronger than you are, my boy. Do not feel your tears. Cause we're women, not the men, short enough. We don't like big cocks, big mouths. So you should cry, now you know what we like. It's smart, it's natural, it's
.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
De retour sur Radio Alpa, en direct du Carré Rouge des Quinconces pour la journée de la pensée joyeuse. Clôture du temps fort de la programmation Les Inspirantes et on enchaîne tout de suite avec notre prochaine invitée. Se réapproprier son corps à travers l'art, c'est peut-être ainsi qu'on pourrait résumer l'acte artistique d'Ornella Vianney-Coffi, autrice ivoirienne de 3 livres auto-édités, dont un essai érotique. Elle est présente sur cette journée de la pensée joyeuse pour une exposition photo accompagnée de textes et d'une performance scénique. Bonjour Ornella Vianney-Coffi.
Bonjour.
Alors sur cette exposition photo, c'est vous qui servez de modèle à plusieurs photographes.
C'est ça.
Comment poser pour ces photos s'inscrit plus largement dans votre démarche artistique?
Poser pour ces photos déjà était parti sur une base de réappropriation du corps. Parce que en tant que femme, femme noire, femme africaine, en tant que femme, femme noire, femme africaine, on a ce retour là, on a certains noms, la sauvage, l'exotique, l'interdit.
Encore aujourd'hui?
Oui, encore aujourd'hui. Et oui, malheureusement encore aujourd'hui. Généralement, quand on date une personne non racisée, la première question qu'on nous pose, c'est est-ce que tu es déjà sorti avec un blanc? Encore aujourd'hui.
Alors l'exposition de photos est accompagnée de poèmes. Dans quel contexte, est-ce qu'ils ont été écrits ces textes? Est-ce qu'ils ont été composés spécialement pour cette installation ou ça vient de d'autres travaux précédents?
Les textes ont été écrits entre 2018 et 2020, où j'étais encore très dans le mode activiste. Je le suis toujours, mais de manière très différente, parce que je suis maman maintenant. Donc mon activisme est un peu plus mature, mais ces textes ont été écrits dans une démarche de revendication. Donc de mon corps, de toutes les injonctions que la société nous demande à nous, femmes, être mère, être épouse, être fille, mais ne jamais être une femme à part entière.
Vous m'avez dit, plutôt il y a quelques jours, que vos différents poèmes, ils parlaient des différentes étapes de la vie d'une femme, c'est-à-dire...
Oui, en fait, c'est plusieurs poèmes, donc j'ai sélectionné 5 poèmes. Le premier, c'est « Stérile ». Donc « Stérile », c'est une réponse... aux injonctions de « soyez mère ». On est mère si on veut et si on peut, parce qu'il y en a qui veulent et qui ne peuvent pas. Il y a « Lettre à ma fille », donc je disais que mon féminisme avait commencé à être un peu plus mature. Donc quand on est mère et militante, il y a certaines choses qu'on est censé dire à nos enfants. Et moi, des fois, je rigole en disant, déjà, quand tu nais femme, tu nais avec un handicap. Donc quand tu nais femme et noire, tu nais avec 2 handicaps. Donc il y a certaines choses qu'il faut dire à ses enfants, de ne pas se cacher, d'affirmer qui on est, d'oser et d'aller chercher en fait ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et le cœur même de la série, c'est la maudite de Nansunku. Nantsunku, déjà chez moi, ça veut dire ne pleure plus. Généralement, on le dit à une personne pour la consoler. Et pourquoi la maudite ? Parce que, en tant que femme, il y a eu certaines périodes dans notre vie où on s'est senti un peu maudite, quand même, de, par les règles, par la douleur de l'enfantement, par le fait de pouvoir être et faire ce qu'on a envie de faire sans être jugée par nos choix. Donc, la maudite de Nantsunku. Et il y a pute esclave. Pute esclave, c'est assez dur comme mot. Mais généralement, quand on veut insulter une femme, on dit pute. Quand on veut insulter un homme, on dit fils de pute. C'est-à-dire, on n'insulte pas l'homme directement, on insulte sa mère qui est, voilà, qui est une femme. Donc, pute esclave, on est à l'issue du satire pour dire, OK, vous me traitez de pute, d'esclave. OK, je le suis. Donc maintenant, vous n'avez pas besoin de me traiter de pute. Je me traite de pute. J'assume ce rôle-là. Et avec ça, vous n'aurez plus rien à me dire, en fait, par rapport à ça. Et le dernier texte, c'est « Je m'offre en sacrifice ». Je m'offre au sacrifice, pourquoi ? Parce que, je répète encore, en tant que femme, il y a certaines choses qu'on fait, ça s'apparente à du sacrifice. C'est-à-dire, quand on devient mère, il y a certains rêves qu'on met sur le côté pour pouvoir être une bonne mère, ou même quand on est carriériste, il y a certains sacrifices qu'on doit faire. Donc, je m'offre en sacrifice et j'attends de mes maîtres, en griffe, de me dire ce qu'il faut que je fasse pour la société.
Alors, Ornella Vianney-Coffi, je rappelle que vous êtes également l'autrice de 3 livres. Et ce qu'on remarque, c'est que la question de la sexualité, ou en tout cas du corps féminin, est omniprésente. C'est un objet d'interrogation permanent chez vous. Le corps objet, le corps marchandisé dans le trafic de femmes, le corps acteur de sa sexualité dans des bruits de coucherie. Est-ce qu'on peut dire que vous travaillez à un érotisme politique, ou est-ce que c'est trop réducteur de réduire votre engagement à la simple question de l'érotisme et de la sexualité ?
Merci pour la question. Déjà, écrire, pour moi, c'est un acte politique dans ma situation en tant que femme africaine. Et mettre la sexualité au cœur de cet acte-là répond en fait à ce qui se passe dans mon pays, dans mon continent. Depuis petite, on nous apprend à être des épouses. Et quand on nous parle de sexualité, c'est en réponse aux besoins de notre époux. Jamais pour notre plaisir, jamais pour ce qu'on veut, mais plus pour répondre en fait aux attentes et satisfaire la société, les patriarches. Donc oui, je travaille beaucoup sur la sexualité, sur la réappropriation du corps, parce que à la base c'est notre corps en fait, donc on en fait ce qu'on veut quand on le veut. Et voilà.
Et donc effectivement, on peut trouver vos livres en France, mais vous écrivez d'abord depuis la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous compareriez la représentation des femmes dans la société en Côte d'Ivoire et en France ?
Je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire avant de m'installer en France. Donc c'est un univers, un milieu que je connais déjà, je connais bien. Et là maintenant, je suis installée en France, donc j'écris en France. Et c'est pareil en fait, la situation de la femme noire. C'est pareil à peu près partout dans le monde, je pense.
Et alors pour finir, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité, Ornella Vianney-Coffi ?
Sur mes réseaux sociaux, j'essaie de poster un peu plus mon travail. Sur mes réseaux sociaux, Ornella Vianney-Coffi, surtout Instagram, Facebook, TikTok, c'est Ornella Vianney-Coffi.
Je vous remercie, Ornella Vianney-Coffi, et donc votre performance poétique et scénique, La Maudite de Nantsunku, c'est à 16h30 sur votre installation à l'Espal pour la journée de la pensée joyeuse.
Ça. Merci beaucoup.
107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
Léa Josso vous invite à un atelier raboutage et pour en parler, je laisse le micro à Lisa Gomez.
Bonjour Léa Josso, vous êtes bénévole au Centre d'art de Jupy et vous animez dans le cadre de la journée de la pensée joyeuse un atelier raboutage au Quinconce. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous expliquer qu'est-ce que c'est le raboutage ?
Alors le raboutage, c'est tout simplement, ça veut dire tout simplement mettre bout à bout. Et en fait, on tisse des liens avec des fils. Et ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils sont tous ensemble à coudre, à tisser, eh bien, en fait, ils papotent. Et c'est très marrant parce que les gens se mettent à raconter leur vie. Et donc, des fois, le résultat peut être très beau, mais c'est pas tant le résultat qui compte que le fait que on est ensemble, on tisse des liens ensemble et on parle ensemble.
Et donc concrètement, comment ça se passe pendant l'atelier?
Alors l'atelier, on fait ce qu'on veut, si je puis dire. On fait ce qu'on veut, on prend les tissus qu'on veut ou les habits qu'on veut, on coupe pas. Et ce qui est très bien, c'est que pour en avoir fait récemment à la Flèche, c'est de 4 à 86 ans. Donc en fait, tout le monde s'y met et tout le monde raconte sa vie à son âge.
Oui, donc ça touche un public aussi bien multigénérationnel que des hommes ou des femmes.
Oui, alors les hommes, on a du mal, faut reconnaître, on a du mal. Alors ça dépend des publics, ici je pense qu'il y aura moins de difficultés, mais la dernière fois, j'ai eu beaucoup de mal à faire asseoir les hommes. Par exemple, dans un festival un petit peu plus marginal, vous n'allez avoir aucun problème.
Oui, ça, ouais, dépend. Ça dépend du lieu, oui, en tout cas.
Quelle raison est-ce qu'ils invoquent les hommes pour ne pas venir sur l'atelier?
Alors, ils sont souvent avec leurs femmes et ils disent « Ah non, mais c'est la couture, c'est elle, moi, c'est le jardinage.
» Donc, vous ferez un atelier jardinage la prochaine fois pour...
Non, je ne ferai pas d'atelier jardinage.
On peut amener soi-même ses propres matériaux. Qu'est-ce qu'on peut amener pour le tissu ou...
Alors, pour aujourd'hui, j'avais demandé des vêtements ou des sous-vêtements, parce que je trouvais ça drôle. Là, on est en train de rabouter un soutien-gorge, je vois. Et oui, on peut amener des tissus, des vêtements, des vieux vêtements qu'on puisse couper si on a envie.
Et donc, comment est-il né cet atelier?
Ah, alors là, c'est une très, très belle histoire, parce que c'est lié à l'ébauche qui se trouve à Juppy, qui est une aire de création artistique de Gaëlle Guéranger et de Loïc Richard. Et ils nous ont offert aux bénévoles un week-end. Et ils disaient, le thème, on va prendre Vinciac Després, qui travaille sur les oiseaux, et qui dit que finalement, dans un territoire donné, on peut créer des liens. Les oiseaux, ils chantent bien tous en même temps, ou les uns après les autres, en s'écoutant, entre guillemets, ça, j'en suis pas sûre. Et on va essayer de travailler sur comment on peut faire un lien dans un territoire. Exemple, Juppy, par exemple. Et donc, il fallait qu'on amène des ateliers. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au terme de « Ah oui, on se met tous autour d'une table, un drap blanc, on raboute », parce que c'est le mot de ma maman qui raboutait mes vêtements abîmés. On a commencé comme ça, dans un week-end sur les oiseaux. Et puis ensuite, on l'a amené à... Ce raboutage a été emporté à la Brasse-Vie, qui est un café associatif du Juppy. Et là, on a fini ce drap sur plusieurs dimanches. Alors, le dimanche matin, on vidait les tables, on mettait le raboutage. Et puis, tous les gens qui entraient dans le café, ils s'installaient et ils raboutaient. Et je ne sais pas ce qui se passe. Il se passe toujours quelque chose de doux et de bienveillant.
Oui, parce que c'est un lieu de partage, du coup.
C'est un lieu de partage, c'est une activité de partage, mais pour l'instant, ça n'a jamais dérivé dans l'agressivité, je ne sais pas comment vous dire. Je trouve qu'il y a quelque chose de très doux.
À quoi ressemblent les productions des gens une fois terminées?
Ouf, alors... écoutez, j'en ai fait trois pour l'instant. Le premier, c'était vraiment comme des petites œuvres d'art mises bout à bout. Donc après, on a fait un lien avec un cordon rouge. Le deuxième, j'avais des tissus d'une vieille dame, des tissus magnifiques. Et ça a donné quelque chose, en plus une robe entière, ça a donné quelque chose de splendide une fois que c'était pendu sur le mur du salon d'automne de la Flèche. Une fois, c'était avec Gaëlle Guéranger, parce que je l'ai suivie dans ses différentes interventions. Et elle désirait que ça ne soit que des fils, c'est-à-dire qu'on croise des fils pour croiser des liens entre nous. Et c'est quelque chose de très aérien, de très arachnéen même, je dirais. Et celui-là, on verra. Parce que j'attends la fin de l'atelier d'écriture. Ils vont écrire, ils vont avoir des bouts de drap et ils vont écrire des mots et on va rabouter des mots.
Mettre dessus.
Donc on ne sait pas, on ne sait jamais ce que ça va donner.
Une fois l'atelier terminé, vous faites quoi des œuvres produites ?
Alors ça va être exposé en bas le temps de la soirée. Et ce que j'en fais, j'attends d'être mondialement connue pour faire une grande rétrospective.
Ce qui ne saurait tarder.
Ce qui ne saurait tarder.
Rabouter pour vous, c'est une activité qui permet la pensée joyeuse ?
Ah, totalement. Totalement. Alors vraiment, je trouve que ça, pensée joyeuse va très bien avec le raboutage, parce qu'on rigole bien quand même.
Et d'ailleurs, le mot de raboutage, vous disiez que c'est votre maman qui l'employait, oui. C'est un mot qui est propre à votre maman ou c'est générationnel ?
Ah non, pas du tout. Le monsieur qui est derrière vous connaissait bien ce mot de raboutage et me demandait si j'étais sartoise. Je ne suis pas sartoise.
Jean-Yves Breteau qui hoche la tête aussi.
Vous connaissez aussi ? Oui. Et en fait, c'est aussi un terme de marine. Parce que les cordes en marine, ce sont des boutes.
Oui, les boutes, oui.
Et donc, en fait, quand le bout était abîmé, il raboutait. Et donc, en couture, c'est devenu aussi, apparemment, dans beaucoup d'endroits en France, c'est devenu mettre bout à bout, réparer. Donc, nous, on répare peut-être des choses, je ne sais pas.
Enfin, dernière question. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être présente aujourd'hui lors de cette journée ?
Ah, alors là, c'est un peu difficile parce que je suis très préoccupée par tout ce qui se passe actuellement dans les liens entre les gens qui se défont. Et ben j'espère être là pour les refaire.
Bah merci beaucoup en tout cas,
merci
d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir.
Et merci Lisa, c'est l'heure de notre dernier sujet pour cette émission.
107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
Si vous êtes présent au Quinconce aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué la présence de l'association Tadamoun. On écoute tout de suite Alice Sibyl nous parler de l'association et de ses actions, et notamment de la collecte organisée aujourd'hui. La journée de la pensée joyeuse, c'est aussi des actions de solidarité avec l'association Tadamoun. L'association est présente sur cette journée pour récolter des dons à destination des exilés de Calais. Une action qui rentre donc pleinement dans la thématique du temps fort de la scène nationale. Pour en parler, je reçois Alice Sibyl, membre du bureau de l'association. Bonjour Alice Sibyl.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous parler un petit peu de cette association Tadamoun ?
Oui, alors l'association Tadamoun, elle existe depuis 10 ans et on va pouvoir fêter bientôt les 10 ans. Et elle s'occupe principalement d'un accompagnement social des personnes réfugiées au Mans, mais aussi d'un accompagnement éducatif, culturel et aussi sur tout ce qui va être sur l'apprentissage du français.
Et donc vous êtes l'antenne locale de l'association Salam, c'est bien ça ?
Non, c'est vraiment l'association Tadamoun qui est en soi une association et qui est amie avec l'association Salam qui est à Calais.
Ah d'accord, c'est pas une antenne de Salam, c'est juste que vous êtes en relation avec l'association
voilà.
Salam. Et donc vous accompagnez des réfugiés au Mans. Globalement, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la situation de ces personnes que vous accompagnez ?
C'est des personnes qui ont fui leur pays... pour certains, auxquels je pense du Soudan, pour des raisons vraiment de guerre et de massacre qui se passent là-bas.
Il y a des Soudanais exilés au Mans ?
En partie, oui. Pas que, mais en partie. Et donc, il y a aussi des enfants et des familles, en tout cas, qui viennent habiter au Mans. Et donc, dans ce cas-là, il y a un accompagnement pour le logement et puis aussi pour toute l'inscription scolaire et la participation à la vie culturelle locale.
On va revenir sur cet aspect culturel. D'abord, préciser que ça fait 10 ans que l'association existe. Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans ? Est-ce que la situation des réfugiés au Mans s'est améliorée, détériorée ? Est-ce que vous avez constaté une évolution particulière ?
Alors moi, j'étais pas là il y a 10 ans. En tout cas, ce que je peux peut-être dire, c'est que de ce que je connais, il n'y a pas moins de personnes qui fuient leur pays. Mais peut-être qu'en tout cas, l'association Tadamoun, elle s'est au fur et à mesure organisée et puis elle arrive maintenant à avoir une capacité de travail où ça fait que quelques années, par exemple, que l'association travaille sur le côté scolaire et éducatif.
Et sur le côté scolaire et éducatif, ça se concrétise comment, par exemple ?
Ça se concrétise par la coordinatrice Brigitte Coulon-Marquez qui peut aller prendre assez régulièrement des rendez-vous avec les professeurs pour qu'il y ait aussi une compréhension des familles de quand ils sont juste primo-arrivants et qu'il n'y a pas encore tout à fait le français, le niveau de français qui permet de tout comprendre. Et ben, soit il y a des personnes qui traduisent, soit il y a aussi des relais.
Oui, parce qu'on imagine bien que la langue, c'est un enjeu important pour ces personnes-là. Mmh. Alors Alice Sibyl, vous, vous êtes particulièrement impliquée dans l'élaboration de parcours culturels pour les bénéficiaires de Tadamoun. Qu'est-ce que vous faites en fait ?
Je travaille avec donc, la coordinatrice à élaborer des parcours, des ateliers de création, des ateliers aussi simplement de découverte culturelle, que ce soit du théâtre, de la marionnette, de la danse, avec des artistes avec qui j'aime bien travailler, moi aussi. Et puis il y a tout un volet d'accompagnement au spectacle, et notamment au spectacle du Plongeoir, de la scène nationale ou de la Fonderie, qui sont nos partenaires.
Alors quand on parle de personnes réfugiées, dont certaines ont des difficultés à assurer leurs besoins essentiels, on se dit que la culture, c'est pas forcément leur priorité. Et pourtant, ça compte, Alice Sibyl ?
Ça compte, je dirais, comme on aime bien dire à l'association, en tout cas je pense à une personne qui m'est très chère et qui dit ça dans l'association, qui est l'idée de réveiller des lumières dans les yeux des enfants et des familles. Et la culture, ça participe à ça. L'art, en tout cas, leur participation, toute leur participation, que ce soit une visite d'un musée, en fait, c'est un levier à la fois social, mais aussi c'est un pont pour à la fois faire le chemin entre la culture d'origine et la culture d'adoption. Et pouvoir trouver cet entre-deux et apprécier en fait ce métissage culturel.
Et donc dans cette démarche, vous travaillez étroitement avec d'autres associations et structures du Mans. Vous parliez des musées, du Plongeoir.
Oui, autant la scène nationale que la Fonderie, que les musées, que le Plongeoir nous accueillent à différents moments, pour différentes choses. Le Plongeoir, par exemple, accueille beaucoup d'aide aux devoirs que des bénévoles font le mercredi après-midi, et sans qui, en fait, on serait bien en difficulté. Et puis, notamment avec la scène nationale, c'est tout un accompagnement au spectacle qui est permis parce qu'ils sont aussi très bien accueillis, et nous sommes toujours très bien accueillis aussi quand il y a des demandes de place, et parce qu'il y a des curiosités aussi d'aller voir des spectacles.
Mais donc pour cette journée de la pensée joyeuse, aucun compte, vous organisez une collecte à destination des réfugiés de Calais. Quelle est la situation là-bas concrètement ?
On a été à Calais il y a donc 2 mois, et c'est notamment en revenant de Calais que cette proposition a été faite d'une collecte. C'est assez difficile parce que les personnes n'ont rien, mais vraiment rien, que à peine des chaussures, et c'est même pas forcément toujours le cas, alors qu'on connaît notre température en Sarthe, et à Calais il fait plus froid.
Il fait plus humide aussi.
Et il fait plus humide, et quand on a juste une tente, eh bien, c'est difficile de se réchauffer. Et on a souhaité axer sur les collectes de dons alimentaires, notamment parce que en fait, ça part de l'expérience vécue là-bas, et que c'était en fait aussi des besoins. L'association Salam, elle fait des distributions tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et donc il y a besoin de confiture, il y a besoin de dons.
Mais d'ailleurs, l'association Salam, c'est pas la seule association humanitaire présente à Calais. Pourtant, malgré ces différents acteurs, ça reste compliqué d'assurer une aide suffisante là-bas.
Oui, parce qu'il y a aussi les camps dans lesquels s'installent principalement des hommes, se font aussi expulsés de leur camp. Enfin, en tout cas, les territoires leur sont bannis pendant un moment. C'est assez violent. Et en fait, sans ces associations qui sont là-bas et qui pallient à quelques moindres besoins essentiels d'un humain, deviennent des cœurs essentiels de rencontre, en fait.
Et alors, qu'est-ce que vous recherchez comme denrées pour cette collecte qui, je crois, dure depuis le début du mois de janvier, si je me trompe pas ?
Oui, tout à fait. Alors, on a ciblé sur des dons faciles à emporter, des conserves de sardines, de haricots blancs, de la confiture et de la farine. J'oublie peut-être un élément, mais...
Et alors, est-ce que les gens en donnent ? Est-ce qu'ils se sentent concernés ?
Alors je vais voir ça dans quelques instants quand je vais aller voir la collecte sur place, j'espère. Et puis aussi dire qu'on a un mail qui s'appelle contact.tadamoun@gmail.com et sur lequel si vous avez des dons de vêtements pour hommes propres, l'association est preneuse et pourra vous orienter sur où les déposer et à quel moment.
Je vous remercie Alice Sibyl, membre du bureau de l'association Tadamoun. Je rappelle que vous collectez des denrées alimentaires pour les réfugiés à Calais en lien avec l'association Salam. Merci beaucoup.
Merci.
Vous venez d'écouter à l'instant Radio Alpa en escalade, présenté par Charlie Pless.